Bonjour aux uns et aux autres. Merci au groupe de louanges qui nous accompagne toujours. C'est vrai qu'on peut être reconnaissant. Et puis, ils travaillent, ils répètent. Cette semaine-là, on a accueilli dans nos locaux une conférence un peu avec un pasteur qui s'appelle Kurt Owen, américain, c'était plutôt pour les leaders, les responsables, mais voilà, il y a plusieurs qui étaient là à servir à la louange jeudi, vendredi, toute la journée et hier encore matin. Voilà, merci à vous et merci pour votre service et votre engagement. Alors, on poursuit notre série de messages qu'on a commencé il y a quelques semaines, qui est intitulée Être une communauté prophétique. Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu sur le peuple du Seigneur, le peuple de Jésus-Christ. Et cet esprit qui habite son Église, l'Église à travers le monde, hein, l'Église universelle, ce n'est pas un esprit silencieux, c'est un esprit qui parle, un esprit qui veut parler à travers son Église. Dieu veut faire de nous ses porte-paroles dans ce monde. Il veut nous inspirer par son Saint-Esprit pour transmettre des messages de sa part. Et vous vous rappelez, on a vu aussi que le feu du Saint-Esprit, comme ces langues de feu qui viennent à la Pentecôte, veut faire de nous ses lumières, ses lampes torches, hein, vous vous rappelez la lampe frontale, au sein de notre société, au sein d'un monde où l'obscurité, règne. Alors ce matin, je vous propose de nous focaliser plus spécifiquement sur ce qu'on appelle généralement, la prophétie ou le don prophétique ou la parole prophétique dans nos églises. Parce que si nous voulons être une communauté prophétique, il faut aussi apprendre à vivre la prophétie en Église. Et parfois, il y a certains chrétiens, quand on parle de la prophétie, ils pensent tout de suite aux grands prophètes, Élie, Élisée, Isaïe, Jérémie ou d'autres, ou Jean-Baptiste. Est-ce qu'on va devoir se mettre des manteaux de poils de chameau et puis manger du miel et des sauterelles comme Jean-Baptiste? Non. La prophétie, c'est souvent bien plus simple, hein. C'est quoi la prophétie? C'est tout simplement transmettre un message inspiré par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. C'est juste ça. Un message qui n'est pas pour nous, un message qui est pour d'autres. On transmet un message, on se fait le porte-parole du Seigneur, un message que le Saint-Esprit nous inspire. Et à travers ce message, à travers cette prédication aujourd'hui, je nous invite à nous poser cette question ce matin. Où est-ce que j'en suis? Chacun d'entre nous, hein, on peut se poser cette question. Où est-ce que j'en suis par rapport à la pratique de la prophétie? Est-ce que je suis conscient que le Saint-Esprit, si je suis en Christ, j'ai le Saint-Esprit, que ce Saint-Esprit, il peut inspirer mes paroles pour transmettre un message à d'autres? Est-ce que je suis prêt à le laisser faire? Est-ce que je suis prêt aussi, non pas à vivre cela en solitaire, mais à vivre cela en communauté, en Église, comme la parole de Dieu nous l'invite à faire? Est-ce que je suis prêt à jouer mon rôle au sein du peuple prophétique qu'est l'Église de Jésus-Christ? Alors notre série, on l'a vu, se base sur le livre des Actes. Et donc, je vais prendre pour base ce matin un récit qu'on trouve dans le livre des Actes et qui me semble bien illustrer des principes sur cette question qu'on trouve tout au long de l'Écriture. Ce récit se trouve au chapitre 21 du livre des Actes. Et on va lire les chapitres 21 à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Acte 21, versets 8 à 14. Le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée. Donc nous, ici, c'est l'apôtre Paul avec ses voyageurs, avec qui voyageaient ses collaborateurs, dont notamment l'auteur des Actes, puisqu'il dit nous, hein, qui s'appelait Luc. Et donc ils arrivent à Césarée après un long voyage, c'est la fin du troisième voyage missionnaire de Paul. Et là, nous sommes entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste et nous avons logé chez lui. C'était l'un des sept, donc les sept qui avaient été mis à part dans l'église de Jérusalem au début des Actes pour faire le service. Mais voilà, aussi, Philippe, il était aussi évangéliste. Et Philippe avait quatre filles non mariées qui prophétisaient. Nous étions là depuis quelques jours lorsqu'arriva de Judée un prophète nommé Agabus. Après son arrivée, il prit la ceinture de Paul, s'en servit pour se lier les pieds et les mains, et il dit: « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture sera lié de cette façon par les Juifs à Jérusalem, puis ils le livreront aux non-Juifs. Après avoir entendu ces mots, nous-mêmes et les frères de Césarée avons supplié Paul de ne pas se rendre à Jérusalem. Mais Paul répondit, Pourquoi pleurez-vous et cherchez-vous à briser mon courage? Je suis prêt, moi, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme nous ne parvenions pas à le convaincre, nous n'avons pas insisté, nous avons dit que la volonté du Seigneur soit faite. Voilà un texte qui nous donne un exemple de prophétie. Alors quand j'enseigne sur la prophétie, j'explique souvent que la communication d'une prophétie peut être divisée en trois étapes. Il y a un petit schéma même que j'ai mis sur le PowerPoint. La première étape, c'est l'inspiration. Le Saint-Esprit peut venir nous inspirer une parole, une pensée, une image, une vision. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est la transmission. Nous sommes invités, parce que ce n'est pas une parole là qui est pour moi, ou qui est juste pour mon édification personnelle, mais quelque chose qui est destiné à d'autres, alors il faut la transmettre. Donc on est invité à transmettre cette parole inspirée aux personnes à qui elle est destinée, ou à l'Église, si elle lui est destinée. Et enfin, la troisième étape qu'on oublie parfois, et sur laquelle insiste aussi l'Écriture, c'est la réception ou l'accueil de la prophétie. Parce que nous avons tous un rôle à jouer dans cette étape-là. Accueillir, discerner la prophétie. Et le récit que nous venons de lire, je crois, illustre bien ces trois étapes et on va voir un peu les choses plus en détail. Première chose, l'inspiration de la prophétie. Si pas vous avez remarqué comment Agabus introduit sa prophétie. Il dit, Voici ce que déclare le Saint-Esprit. On pourrait aussi traduire, Ainsi parle le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, si vous connaissez un peu votre Bible, vous savez que les prophètes de l'Ancien Testament, il y a une formule qui revient des centaines de fois lorsqu'ils prophétisent dans l'Ancien Testament, c'est « Ainsi parle le Seigneur » ou « Ainsi parle l'Éternel », le nom de Dieu qui est ici traduit par « Seigneur » ou « Éternel ». Avec Agabus, la prophétie n'est pas présentée directement comme une parole du Seigneur, mais plutôt comme une parole du Saint-Esprit. Bien entendu, quand c'est le Saint-Esprit qui parle, c'est Dieu qui parle. L'Esprit, Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est une des personnes de la Trinité. Mais ce n'est pas par hasard que le projecteur est mis sur le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que, si vous vous rappelez que dans le livre des Actes, l'auteur des Actes, il insiste beaucoup sur le rôle du Saint-Esprit dans la vie de l'Église. Saint-Esprit, c'est ce qui va mettre en œuvre la mission des disciples de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui va être cette puissance qui va permettre à de simples pécheurs de Galilée d'être utilisés par le Seigneur pour répandre cette bonne nouvelle de l'Évangile à travers l'Empire romain. Le Saint-Esprit est celui qui inspire, qui conduit la vie de l'Église, et c'est lui qui parle aussi à travers la prophétie. Le Saint-Esprit, vous savez, ce n'est pas juste une force ou une puissance ou une énergie. Ce n'est pas quelque chose, voilà, simplement une chose, hein. Le Saint-Esprit, d'après la Bible, c'est une vraie personne. C'est une des trois personnes de la Trinité divine. Nous avons un Dieu un en trois personnes, un seul Dieu en trois personnes. C'est un mystère, hein, la Trinité, Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et dans les textes bibliques, en particulier dans l'évangile de Luc ou les Actes, on voit bien cela. Par exemple, on nous dit que le Saint-Esprit va conduire Jésus au désert, un peu comme un conducteur. Ou bien qu'il va enlever Philippe dans les airs et puis l'amener ailleurs. C'est dans un autre passage des Actes. Vous avez aussi Ananias et Saphira, je ne sais pas, vous connaissez ce récit, qui ont menti au Saint-Esprit, nous est-il dit. Mais il y a une activité du Saint-Esprit qui est particulièrement soulignée dans le livre des Actes, c'est que le Saint-Esprit parle. Il y a de nombreuses mentions de paroles dites par l'intermédiaire du Saint-Esprit. À la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit vient sur les disciples de Jésus, on avait vu ça, hein, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent. Ils se mettent à parler, à dire les grandeurs de Dieu dans des langues qu'ils n'ont pas apprises. Et puis l'apôtre Pierre, nous dit le texte, est rempli du Saint-Esprit, va prendre la parole et prêcher l'évangile. Résultat, il va y avoir 3000 conversions. Et un peu plus loin, au chapitre 4, on nous dit que les disciples sont réunis. On a chanté ça tout à l'heure, les murs tremblent, etc. Je sais pas, vous connaissez ce passage. Et il y a le Saint-Esprit qui vient les remplir à nouveau. Ils sont plusieurs fois remplis, hein, les disciples, dans les Actes. Et qu'est-ce qui se passe? La conséquence de cela, ce n'est pas juste qu'ils ont vécu un bon moment, hein, mais ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Voilà la conséquence. Le Saint-Esprit produit le parler en langue, produit la prophétie, il oriente le témoignage, il inspire des paroles de discernement, il inspire les décisions de l'Église, il nomme les anciens, même dans les Actes, il y a un verset qui dit cela. Notre Dieu n'est pas un Dieu silencieux qui écoute nos prières silencieusement. Il est un Dieu qui parle. Et comment est-ce qu'il parle aujourd'hui? À travers son Saint-Esprit. C'est la personne divine qui a ce rôle-là particulier pour parler à l'Église. Et comment le Saint-Esprit s'y prend-il pour parler? Est-ce qu'il fait résonner une voix depuis le ciel? Ça peut arriver, mais c'est quand même pas la façon la plus courante. Est-ce qu'il va écrire un message sur le mur? Alors, il y a un passage de Daniel où il fait ça, hein. Alors, pas c'est le Seigneur plutôt, dans ce passage. Non, ce qui est le plus fréquent et ce qui est le cas habituel, on va dire, dans la vie de l'Église, c'est qu'il va utiliser celles et ceux sur qui a été déversé le Saint-Esprit. Et sur qui a été déversé le Saint-Esprit? On l'avait vu la dernière fois en acte 2, le jour de la Pentecôte, ça vient sur les... Saint-Esprit vient sur les disciples qui sont réunis et l'apôtre Pierre explique ce qui vient de se produire. Il dit, ouais, non, ils sont pas, ils n'ont pas bu l'apéro trop tôt. Ce qui se réalise, c'est ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieux, ils auront des songes. Et sur mes serviteurs, mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Vous voyez, tout le monde est concerné. La promesse ne concerne pas juste les apôtres, mais tous ceux qui vont placer leur foi en Jésus-Christ. Et si vous lisez encore la suite du récit des Actes, vous avez l'apôtre Pierre qui continue son discours et à la fin il dit « Cette promesse, la promesse de l'Esprit-Saint, celle que Joël a faite, le prophète Joël, cette promesse, elle est pour vous, pour vos enfants, même pour ceux qui habitent très loin d'ici, et en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Pour tous ceux que le Seigneur appelle, cette promesse est là. » Et depuis la Pentecôte, notre Dieu parle par le Saint-Esprit qu'il a déversé sur son peuple. C'est son moyen ordinaire de parler. Alors c'est vrai que Dieu va donner à certains croyants parfois un don plus spécifique dans le domaine de la prophétie. Ça c'est biblique aussi, le Seigneur fait des dons différents aux uns et aux autres. On a des fonctions différentes dans le corps du Christ. On n'a pas tous les mêmes dons, et c'est ce qui fait la beauté aussi. On a parlé de la diversité la semaine dernière, hein, et la diversité, elle est dans le plan de Dieu. On n'a pas tous un ministère particulier dans la prophétie, comme Agabus, par exemple, qui était un prophète un peu reconnu dans l'Église primitive. Mais ce que montre le livre des Actes, c'est pas, il n'y a pas que des gens comme Agabus qui prophétisent ou qui peuvent être inspirés par le Saint-Esprit pour transmettre une parole. Et d'ailleurs, il le fait remarquer, Luc, l'auteur des Actes, en mentionnant juste avant Agabus, dans notre passage qu'on a lu tout à l'heure, le fait que Philippe avait 4 filles qui n'étaient pas encore mariées, des jeunes, hein, qui avaient un don de prophétie, qui prophétisaient, nous dit le texte. On va se dire, mais pourquoi est-ce qu'il mentionne juste là, avant de parler d'Agabus, pourquoi nous donner cette information qui n'est pas... On va dire elles n'interviennent pas, hein, dans le texte, là, les filles de Philippe. Ben, probablement pour nous rappeler qu'Agabus, ce n'était pas le seul prophète ou le seul inspiré de l'Église primitive. Il y avait même de jeunes filles qui prophétisaient. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, des jeunes filles qui prophétisent, hein, ben, cette citation de Joël en acte 2, « Vos fils et vos filles prophétiseront. » Le Saint-Esprit est déversé sur tous les croyants, sans faire de distinction. Et on est tous concernés. Est-ce qu'on est conscient de cela? Est-ce que nous sommes conscients que nous pouvons tous être inspirés par le Saint-Esprit, si nous sommes en Christ, hein, si nous avons placé notre vie en Christ et que nous laissons le Saint-Esprit vivre en nous? Mais est-ce qu'on est inspiré, conscient de cela, qu'à un moment ou à un autre, il peut nous inspirer pour transmettre une parole de la part du Seigneur? Alors parfois, il va nous mettre à l'esprit une pensée, quelques mots ou une image. Ça peut concerner peut-être parfois l'Église ou notre communauté, parfois un groupe particulier de l'Église auquel nous participons. Et dans ce cas, on pourrait être appelé à transmettre lors d'une réunion, dans l'ordre, sous la supervision des responsables, un peu comme tout à l'heure Hélange l'a fait. Mais il ne faut pas oublier aussi que le prophétique peut s'exprimer même au-delà de nos rencontres d'Église, dans tous les domaines de la vie chrétienne. Par exemple, nous prions avec un frère, ou une sœur. Hein. Ça peut être pendant une réunion de l'Église, mais ça peut être aussi quand on se retrouve. Des fois, vous avez le droit de prier ensemble en dehors des cultes. Hein. quand on se retrouve ensemble, on prie l'un pour l'autre. On peut aussi demander au Saint-Esprit, ben, inspire ma prière. Inspire une parole précise, une parole particulière qui va encourager, exhorter aussi mon frère, ma sœur en Christ. Et puis aussi dans le cadre de notre témoignage. Lorsqu'on témoigne de Jésus-Christ à un collègue de travail, à quelqu'un qu'on a rencontré, on peut aussi demander au Seigneur, Seigneur, Saint-Esprit, viens inspirer mes paroles. Viens me donner une parole juste, une parole qui va toucher le cœur de cette personne, une parole précise pour que nous, voilà, pour que tu agisses, Seigneur, que tu parles à cette personne et non pas juste moi. Voilà, dans tout ce qu'on fait, dans notre travail, dans nos études, dans nos relations de voisinage, dans notre famille, on peut dire Seigneur, viens inspirer, Saint-Esprit, viens inspirer mes paroles. C'est important de se rappeler de cela, que Dieu nous a donné son Saint-Esprit et qu'il n'est pas silencieux. Il souhaite inspirer nos paroles. Est-ce que nous prenons le temps de l'écouter aussi, hein? Écouter ce qu'il veut dire à travers nous. Parfois, pour écouter, il faut faire silence. Hein. Il y en a des fois qui aiment bien parler à Dieu, beau. Mais est-ce qu'on l'écoute aussi? Parfois, on peut dire simplement, parle Seigneur ou parle Saint-Esprit, nous t'écoutons. Premier point, donc, l'inspiration. Être conscient que le Saint-Esprit vit en nous et qu'ici, il veut nous inspirer. Deuxième point, la question de comment ensuite je suis appelé à transmettre la prophétie. Savez, le Seigneur et le Saint-Esprit ne fait pas de nous des marionnettes. On n'est pas des pantins que le Saint-Esprit voudrait faire parler, hein, ou comme les Muppet Show, là, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, ou les Guignols de l'info pour ceux qui ont connu. Dans la prophétie, on n'est pas juste une bouche. Ce n'est pas du tout comme ça que la Bible présente la prophétie. Dans la prophétie, il y a toujours une forme de collaboration entre le Saint-Esprit et nous, entre le Seigneur et nous. Ce qui veut dire que si le Saint-Esprit nous inspire une parole ou une pensée ou une image, nous sommes aussi responsables dans la manière dont nous allons la transmettre. Transmettre cela. Et on voit ça même chez les prophètes de l'Ancien Testament. Le Seigneur, il veut toujours collaborer avec les prophètes. Parfois, ils n'ont pas trop envie. Mais il va dialoguer avec eux, il va discuter avec eux jusqu'à ce qu'ils soient d'accord. Il y a une forme de collaboration. Et là aussi, je crois que l'exemple d'Agabus nous montre qu'Agabus, il a probablement reçu voilà, ce qu'il a transmis du Seigneur, mais je pense qu'il a réfléchi aussi à comment il allait la transmettre. Et ce qu'on peut voir dans l'exemple d'Agabus, c'est deux choses qui me semblent intéressantes. C'est à la fois qu'il est créatif, la créativité, et la simplicité. D'abord, la créativité. Pourquoi? Où est-ce qu'on voit ça? Je ne sais pas si vous avez vu, il fait un geste un peu surprenant, Agabus, c'est qu'il va prendre la ceinture de Paul. Il prend la ceinture de Paul, l'apôtre Paul, et puis Ils s'attachent les mains avec et les pieds avec. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la scène. Hein. Bon, c'est un peu comme si voilà, j'allais trouver quelqu'un, peut-être je vais aller le trouver Adnan. Pendant la réunion, je dis Adnan, donne-moi ta ceinture. Non, non, t'es pas obligé. Et puis après, je m'attache les pieds et les mains avec. Bon, déjà, il m'en regarderait un peu bizarrement. Hein. Et puis, je ne sais pas si vous réalisez, il faut imaginer un peu la scène. Hein. Bon, peut-être que les ceintures de l'époque étaient un peu plus longues que celles d'aujourd'hui, mais quand même, s'attacher les mains et les pieds avec la ceinture, il devait être dans un. Ouais. Bon, bref. Pourquoi est-ce que Abus fait ce geste prophétique? C'est certainement pas parce qu'il y aurait quelque chose de magique avec ce geste. C'est pas non plus parce qu'il voudrait prendre l'onction de Paul ou je sais pas quoi. Hein. C'est pas non plus un geste obscur issu d'une interprétation un peu ésotérique du texte biblique ou je sais pas quoi. C'est pas compliqué. Ça permet simplement d'illustrer la prophétie. Qu'est-ce que Agabus annonce à Paul? Qu'il va être fait prisonnier. Et en grec, on dit littéralement, il va être lié. C'est comme ça qu'on dit être prisonnier, être lié, attaché. Hein. Eh bien, il utilise un geste simple. Il prend la ceinture de Paul, il se lie les mains et les pieds pour faire comprendre ce qui va arriver à Paul. C'est une illustration très simple, très facile à comprendre, mais qui marque aussi. Ma fille, l'autre fois, elle me demandait, voilà, ben, qu'est-ce que tu vas encore nous amener comme objet pour la prédication aujourd'hui? Vous avez remarqué, j'aime bien utiliser des objets pour illustrer aussi le message, la prédication, parce que c'est des choses qui nous aident aussi à retenir. Et Agabus fait preuve, je crois, de créativité pour transmettre la prophétie efficacement. Et après les gestes, il y a les mots. Et là aussi, c'est très simple. Je pense que c'est la simplicité, on pourrait dire, qui est là. Alors peut-être que le livre des Actes résume un peu ce qu'a dit Agabus, mais en tout cas, si on lit le texte des Actes, il y a juste une phrase. L'homme à qui appartient cette ceinture sera lié de cette façon par les Juifs à Jérusalem, puis ils le livreront aux non-Juifs. C'est tout, ce que dit Agabus. C'est pas très long, hein? Prophétie plutôt simple, pas de tralala, hein, pas de longueur, simple et court. Alors peut-être que effectivement c'est un résumé qui nous est donné, mais tout de même, ça me trouve intéressant. Créativité, simplicité. Je crois que c'est deux exemples et il y aurait peut-être d'autres arguments qui me semblent intéressants à retenir pour la prophétie. Pas besoin d'en rajouter. La question qui se pose, c'est de savoir pourquoi Agabus, et on pose souvent cette question chez les commentaires, pourquoi Agabus annonce que Paul sera fait prisonnier par les Juifs? Qui vont ensuite le livrer aux non-juifs. Les non-juifs, c'est ici les autorités romaines. Jérusalem, à cette époque-là, est sous la gouvernance de l'Empire romain. Donc, il y a des autorités qui sont romaines et il y a les autorités juives qui s'occupent de tout ce qui est le temple et la vie de la religion juive. Parce que si vous vous souvenez la suite de l'histoire, ce n'est pas tout à fait comme ça que les choses se passent. L'apôtre Paul va aller à Jérusalem, hein, c'est juste après, hein, vous pourrez lire à la maison la suite du texte. Et effectivement, il va être fait prisonnier à Jérusalem, et il va rester prisonnier pendant plusieurs années ensuite. Mais il ne se fait pas arrêter par les Juifs, contrairement à ce que dit Agabus, il va être arrêté par les Juifs. Non, dans le texte, on nous dit que certains Juifs vont créer une émeute. Il va y avoir une émeute, on va vouloir tuer Paul dans le temple, si vous vous rappelez de l'histoire. Et là, les Romains vont intervenir, parce que les Romains sont là pour assurer l'ordre public, hein, et donc ils envoient les CRS, hein, la cohorte romaine de sécurité, qui intervient pour calmer tout le monde, et surtout pour emmener Paul comme prisonnier, mais aussi pour le protéger, hein, sinon il serait fait tuer par les Juifs, bon, par certains Juifs. Hein. Paul lui-même était juif. Et donc, ce n'est pas les Juifs qui font Paul prisonnier, mais ce sont les Romains. Alors on pourrait se dire, mais est-ce que Agabus se serait trompé dans sa prophétie, dans les détails de sa prophétie, puisque lui, il a dit que c'est les Juifs qui l'arrêteront, qui le donneront ensuite aux Romains. Hein? Je ne pense pas. Et la plupart des commentateurs non plus. Pourquoi? Parce que la prophétie d'Agabus n'a pas pour objectif de donner les détails du futur de Paul. La prophétie, ce n'est pas de la voyance. La prophétie, elle n'est pas là pour annoncer ce qui va arriver. La prophétie, elle est là pour encourager, pour exhorter, pour réconforter. Réfléchissons un instant. Agabus dit à Paul, tu vas aller à Jérusalem, là-bas, tu vas être arrêté par les Juifs et livré aux Romains. Arrêté par les Juifs et livré aux Romains. À quoi ça vous fait penser? Ou à qui ça vous fait penser? Jésus. Jésus a été arrêté par les responsables juifs et ensuite livré aux autorités romaines pour être crucifié sur la croix. Vous voyez ce que fait Agabus? Et ce que le Saint-Esprit lui a inspiré, hein? Ce n'est pas simplement d'annoncer le futur de Paul, de lui dire, voilà, tu vas être arrêté à Jérusalem, mais d'indiquer qu'il y a un parallèle avec ce qu'a subi le Seigneur, celui dont il est le témoin, celui dont il est l'envoyé, le messager, Jésus-Christ. Et la prophétie, elle est là pour faire comprendre à Paul et aux chrétiens qui sont réunis avec lui, hein, qui tiennent beaucoup à lui, qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, qu'ils n'ont pas à s'alarmer des persécutions que Paul va subir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un échec, ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas je ne sais quoi, c'est simplement ce qui peut arriver à un témoin fidèle de Jésus-Christ qui se met à la suite du Christ, qui est prêt à aller jusqu'au bout pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Agabus n'a pas fait une mauvaise prophétie, il ne s'est pas trompé, mais il a été inspiré par l'Esprit pour prononcer une parole de réconfort centrée sur celui qui est au cœur de notre foi, Jésus-Christ. Et là aussi, c'est un point qui me semble fondamental pour la prophétie dans la vie de l'Église, c'est rester centré sur Christ. Prophétiser avec créativité, avec simplicité, mais toujours se rappeler que ce qui est au cœur de notre foi, qui est au cœur de la parole de Dieu, qui est au cœur de la Bible, hein, c'est Christ. Le but de la prophétie chrétienne, ce n'est pas de prédire l'avenir, encore moins de faire peur avec des prédictions apocalyptiques et terrifiantes. Alors, il peut y avoir une dimension prédictive, hein, à la prophétie, bien sûr, mais ce n'est pas le but. Ça, Nostradamus, il peut le faire. Non, le but de la prophétie, c'est d'encourager, de réconforter, d'édifier l'Église et ceux qui la composent. C'est important de se souvenir de ça, de faire bien la différence avec la voyance ou tous ceux qui vous dites simplement votre avenir. Ce n'est pas ça là, que le Seigneur veut. Parfois, il nous donne des choses du futur, il nous annonce des choses, mais ce n'est pas juste pour nous annoncer, c'est pour nous encourager, nous prévenir, nous exhorter, nous fortifier dans notre marche chrétienne. Alors laissons le Saint-Esprit inspirer notre créativité pour transmettre la prophétie avec cet objectif. Il est là pour illuminer notre intelligence aussi, hein. L'apôtre Paul il dit en 1 Corinthiens 14 que celui qui prophétise, il parle pas seulement par l'esprit, mais aussi avec l'intelligence. La prophétie implique aussi la mise en œuvre de notre intelligence dans la façon dont on transmet les choses. Et il y a aussi en 1 Corinthiens 14, hein, c'est le chapitre, si vous voulez savoir, sur la prophétie chrétienne dans la Bible à lire, où Paul donne plein d'indications sur comment vivre cela. On aurait pu prendre ça, mais comme on est sur les actes, j'ai préféré prendre un exemple des actes. Et il y a une autre chose qui met en avant, c'est que le fait que dans nos réunions, parfois il y a des gens qui arrivent dans nos réunions et qui ne connaissent pas trop un peu ce qu'on fait là, qui sont un peu des nouveaux, hein, qui débarquent ou qui ne sont pas encore à Christ et qui ne comprennent pas toujours un peu notre langage, ce qu'on appelle le patois de Canaan. Vous savez, hein, patois de Canaan, là. Voilà, je suis lavé par le sang de l'agneau qui me purifie de tous mes péchés. Ça ne veut rien dire pour des gens qui n'ont pas la culture biblique, hein. Et Paul dit, soyez attentifs à ceux qui viennent, qui ne vous prennent pas pour des fous, dit-il. Mais au contraire, voilà, on est appelé aussi à être conscient de cela. Et puis une autre chose qu'on peut relever dans la manière dont Agabus transmet sa prophétie, c'est qu'il fait cela quelque part en soumission et en accord avec d'autres chrétiens. Il fait cela dans le cadre de la vie de la communauté. Agabus, ce n'était pas un prophète qui débarque comme ça et qui dit, voilà, inconnu, hein. Au contraire, il est connu dans l'Église primitive, il est mentionné avant dans le livre des Actes. Il n'a pas débarqué comme ça à Césarée, il a dit à Paul, bon, maintenant, file-moi ta ceinture, écoute-moi bien. Non. Agabus, voilà, il fonctionnait déjà avec d'autres ministères, il était connu dans l'Église primitive. Et puis Agabus non plus, il ne donne pas sa prophétie en catimini, hein, il ne donne pas rendez-vous à Paul dans son cabinet de prophétologie pour lui faire une petite prophétie personnalisée en lui disant « Surtout, tu dis à personne. Hein. Voilà, ça reste entre nous. Hein. » Non. Quand est-ce qu'il va donner cette parole? Ben, en présence d'autres chrétiens. Alors, il n'y avait pas forcément 200 personnes réunies à ce moment-là dans la maison de Philippe. Hein. Probablement pas. Peut-être quelques-uns, quelques dizaines, mais Agabus transmet la prophétie dans le cadre d'une rencontre de chrétiens. Et en faisant cela, il se place dans une attitude qui est propice au discernement de l'Église. Parce que son attitude permet qu'on puisse ensuite discuter de sa prophétie. Alors vous allez me dire quand même, Agabus, il parle avec autorité. Il dit, voilà, voici ce que dit le Saint-Esprit. Mais là encore, lorsqu'il dit, voici ce que dit le Saint-Esprit, il se met au même niveau que tous les croyants qui sont là, réunis avec lui à Césarée, qui ont aussi le Saint-Esprit en eux, qui sont aussi capables d'être inspirés par le Saint-Esprit, comme les filles de Philippe, par exemple. Et Agabus, voilà, se met quelque part aussi au même niveau. On a un bel exemple, je crois, d'une prophétie vécue dans la vie de l'Église. Le prophète chrétien reconnaît qu'il n'est pas plus spirituel ou pas plus inspiré que le reste des croyants en Jésus-Christ, hein. Et du coup, il soumet sa prophétie au reste de l'Église. Même s'il peut faire preuve de créativité, je crois qu'il est aussi attentif à l'organisation de l'Église. Il ne va pas intervenir n'importe quand ou n'importe comment. Paul le dit en 1 Corinthiens 14, l'inspiration prophétique, elle n'est pas incontrôlable parce que la nature de Dieu est que Dieu est un Dieu de paix et non pas de désordre, dit-il. Et donc, il y a quelque chose aussi, voilà, qui n'est pas contraire à la liberté de l'esprit, du fait qu'on puisse aussi avoir certains fonctionnements dans la pratique de la prophétie. Hein. Donc, surtout quand on est réunis en culte avec plusieurs dizaines, parfois plusieurs centaines dans certaines églises, peut-être un jour ici, et amen. Voilà, c'est normal qu'il y ait la mise en place de certains principes, avec des responsables aussi dans l'église, un conseil, des anciens, des pasteurs, qui sont là aussi pour superviser la communauté, parce qu'on a tous des rôles différents, on a le même Saint-Esprit, je ne suis pas plus spirituel que vous, mais on a des fonctions différentes dans l'Église. On a des rôles différents que le Seigneur nous donne. Et cette structure ou cette organisation de l'Esprit, ce n'est pas quelque chose de contraire à la vie de l'Esprit, puisque dans les Actes, on voit bien que le Saint-Esprit est aussi derrière tout cela. Par exemple, en Actes 20, verset 28, vous pourrez lire si vous voulez à la maison, on nous dit que Paul il dit que les anciens d'Éphèse, ils ont été nommés par le Saint-Esprit. Ou quoi, il y a eu dans cette mise en place des anciens, des responsables dans l'Église aussi, l'action de l'Esprit qui est là. Et donc, parfois, il y a des excès hein, dans la vie de l'Église. On peut parfois aller trop loin dans la réunionnite ou la bureaucratie. Hein. Ça peut arriver. Il faut qu'on soit conscient de cela. Mais il ne faut pas non plus voir une opposition entre une bonne organisation de l'Église et la liberté de l'Esprit. Et le Saint-Esprit agit aussi à travers cela. Voilà. Quelques principes pour transmettre une parole du Seigneur. Et puis la troisième étape de la communication de la prophétie, c'est l'accueil et le discernement de cette prophétie par l'Église. Et là aussi, on voit dans ce texte que quand Agabus va donner cette parole, il y a une vraie discussion qui s'engage, surtout entre Paul et les autres. Hein. Vous avez remarqué. Alors, on a un résumé ici, là aussi, dans le livre des Actes de la discussion. On ne sait pas exactement combien de temps ça a duré, ce qui s'est dit, etc. Mais on voit qu'ils ne sont pas d'accord entre eux sur la suite à donner à la prophétie. Puisque les amis de Paul, ils disent à Paul, non, 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 va pas à Jérusalem, tu vois bien ce qu'il a dit, Agabus, tu vas être prisonnier, ne va pas te jeter dans la gueule du loup. Paul, enfin. Mais Paul, Qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. Et probablement c'est lui, et je pense que c'est comme ça que le texte nous le présente, qui avait compris le sens de la prophétie. Il dit, je suis prêt non seulement à être lié à Jérusalem, mais à mourir pour le nom du Seigneur Jésus. Agabus n'a pas dit qu'il allait mourir. Il a dit, il va être prisonnier. D'ailleurs, il va pas mourir à Jérusalem, Paul, il va mourir à Rome, mais bien des années plus tard. Mais Paul, il a compris la prophétie qui comparait le sort qui l'attend à celui de Jésus, puisque Jésus, lui, il s'est fait arrêter par les Juifs et livré aux Romains et été crucifié. Il est mort à Jérusalem, puis il est ressuscité, bien entendu. Mais Paul fait comprendre, voyez, aux autres chrétiens qu'il est prêt à aller jusqu'au bout pour suivre son Seigneur, s'il le faut. Il est prêt à suivre Jésus jusqu'à la mort. Et au final, le texte nous dit que les croyants, comme ils voient que Paul est, on ne peut pas l'empêcher, ils acceptent qu'ils partent et ils vont déclarer tous ensemble que la volonté du Seigneur soit faite. Mais toute la communauté réunie déclare cela. Il y a une discussion, mais à la fin, on dit que la volonté du Seigneur soit faite. Et là aussi, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, cette formule. Jésus lui-même, à la veille de son arrestation dans le jardin de Gethsémané, qui déclare à son Père céleste, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. On dit parfois que Paul y vit ici son Gethsémané. Mais pour arriver à cette déclaration, les chrétiens ont dû prendre ce temps aussi de la discussion, de l'échange, et parfois quand il y a une parole du Seigneur, c'est aussi bien d'en discuter, de savoir qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Est-ce que ça vient du Seigneur déjà, vraiment? Parce qu'on peut se tromper aussi. Ça nous arrive, hein, des fois on prend nos propres pensées pour les pensées du Seigneur. Ça peut nous arriver de nous tromper. Et c'est pour ça qu'on est ensemble en Église pour discerner ensemble. Comment discerner? Alors il y aurait peut-être besoin d'une autre prédication sur ce sujet, mais je vais juste résumer trois critères qui me semblent importants dans la parole de Dieu sur la question du discernement. Première chose, c'est qu'une prophétie ne peut pas être en désaccord avec la parole de Dieu sûre et solide, qui est notre fondement pour notre foi, c'est-à-dire la Bible. La Bible, l'Écriture, c'est notre fondement solide. C'est la parole de Dieu 100% sûre, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Et ça, c'est notre base pour savoir si vraiment cette parole ou cette pensée, elle vient du Seigneur. C'est important de connaître notre Bible. Si vous ne connaissez pas la Bible et que vous souhaitez prophétiser, sachez que le diable, il peut aussi vous faire facilement chuter. Quand vous avez parlé de ce texte dans une prédication, hein, de Jésus lui-même entend le diable lui parler et lui répond non, c'est faux, parce que l'Écriture déclare. La Bible, c'est le fondement pour notre discernement. Et dans notre passage, alors, on ne sait pas de quoi ils ont discuté, mais peut-être qu'ils se sont remémorés les textes de l'Ancien Testament qui évoquent la persécution des prophètes. C'est quelque chose qui est courant dans l'Ancien Testament. Ou peut-être qu'ils se sont souvenus de ce que Jésus-Christ lui-même avait annoncé, du fait qu'il ne faut pas s'inquiéter des persécutions qui peuvent accompagner le témoignage chrétien. Alors, on ne sait pas, mais en tout cas, on peut penser qu'il y a un modèle aussi biblique qui était derrière toute cette discussion. Deuxième point, c'est qu'une prophétie doit inviter à tourner les regards vers celui qui est au cœur de notre foi, qui est Jésus-Christ. C'est le modèle par excellence, c'est celui en qui nous avons le pardon, la réconciliation, la restauration. C'est le cœur de notre foi. Sans Jésus-Christ, on ne serait pas là, hein. Et dans le cas de la prophétie d'Agabus, on retrouve bien ce critère, comme je l'ai expliqué. Et de manière générale, voilà, c'est important de se souvenir que le cœur de la révélation divine, c'est Jésus-Christ. Et si Christ est absent de notre vie prophétique, hein, pas forcément de chaque prophétie, il ne va pas annoncer l'évangile en trois points, hein, mais voilà, si Christ est toujours jamais mentionné, qu'on est toujours voilà, dans quelque chose où Christ n'a pas trop sa place, c'est inquiétant. Toujours orienté vers Jésus-Christ, parce qu'il est celui par qui nous avons accès à Dieu. Il est celui qui a déversé le Saint-Esprit sur son Église. Et enfin, troisième point, la prophétie a pour but la construction, l'édification des autres et par extension la construction de l'Église. Et là aussi, je crois que la prophétie d'Agabus, elle a aidé l'Église à grandir, à progresser. Pourquoi? Parce qu'à travers cette prophétie, elle a compris que la persécution que Paul allait subir et qu'il va subir juste après, hein, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas je ne sais quoi. Au contraire, ça montre que Paul est un témoin fidèle de Jésus-Christ, même si ça doit lui en coûter la vie. Et en fait, je pense que la prophétie d'Agabus, elle a plus servi à réconforter l'Église que Paul. Parce que Paul, il savait déjà ce qu'il attendait. Si vous avez lu, vous vous souvenez un peu de ce qui est des passages qui sont avant dans le livre des Actes. Paul, il savait déjà, et le texte nous dit que déjà quand il est en Asie mineure, donc très loin, en Turquie actuelle, il a fait un long voyage jusqu'en Césarée. Paul avait déjà dit que dans les églises où il passait, le Saint-Esprit inspirait les uns et les autres pour lui indiquer que ça allait mal se passer à Jérusalem. Et il dit déjà en Actes 20, verset 24, Ma vie m'importe peu, je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course, d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Oui, Paul, il était déjà décidé. Mais l'Église avait encore besoin d'entendre que ce n'était pas un échec s'il allait être arrêté ou ce qui allait lui arriver. Il était simplement à la suite de son Seigneur. Je termine, je conclue un peu ce message. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des rêves. Depuis la Pentecôte, notre Dieu déverse son Saint-Esprit sur les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes qui composent son Église. Et cet esprit n'est pas silencieux, il parle. Par-dessus tout, il veut s'exprimer à travers nous. Alors, est-ce que nous sommes prêts à laisser le Saint-Esprit parler à travers nous? Première chose qu'on peut faire de façon très pratique, hein, c'est peut-être que vous avez des gens ou des personnes pour qui vous priez régulièrement, qui vous tiennent vraiment à cœur dans la prière. On prie pour cette personne, peut-être dans la famille ou peut-être ailleurs, collègue, je ne sais pas. Ou votre pasteur, peut-être. Mais est-ce que vous avez déjà pris le temps d'écouter ce que le Seigneur pourrait vouloir dire à cette personne à travers vous? Peut-être qu'il veut vous inspirer une parole à propos qui va encourager cette personne qui traverse peut-être un temps difficile, qui va la réconforter, qui va faire avancer cette personne pour qui nous prions. Est-ce qu'on est conscient de ce que le Saint-Esprit peut aussi inspirer nos paroles? Amen. Nous prions, mais est-ce qu'on écoute aussi ce que le Seigneur veut dire? Après, il faut aussi avoir la sagesse pour le dire, le transmettre de façon juste. Alors peut-être que ce genre de choses, ça nous fait peur aussi, hein? Peut-être qu'on n'est pas très sûr de soi. Moi, voilà, c'est peut-être, on n'est pas tous avec une grande assurance pour prendre la parole ou autre. Et parfois, on se pose cette question, hein, est-ce que ça vient du Saint-Esprit ou de mon imagination? Comment je fais la différence entre mes propres pensées et celles du Seigneur? Voire même, des fois, ce que l'ennemi peut nous faire entendre. Et puis, est-ce que je m'y prends bien? Est-ce que je ne vais pas dire une bêtise? Parfois, on a un peu peur, on a ces craintes-là. Si vous vous posez ces questions, ben, j'ai une bonne nouvelle pour nous, c'est que votre Père Céleste vous a pas laissé tout seul dans le désert, un peu comme Jean-Baptiste, mais il vous a mis avec une famille en Christ, des frères et des sœurs en Christ, qui eux aussi ont le Saint-Esprit, et parfois ont quelques années d'expérience même, hein. Alors profitons-en. Et je crois que c'est vraiment une clé fondamentale pour vivre le prophétique de manière équilibrée dans la vie de l'Église, c'est de ne pas le faire tout seul dans son coin, mais de demander conseil. De dire, ah là, ouais, j'ai reçu ça pour cette personne pour qui je prie, là, mais quoi, j'ai l'impression que ça vient du Seigneur. Qu'est-ce que tu en penses? Comment je dois lui dire? On n'est pas tout seul. Il n'y a pas de problème. On est là pour s'entraider, pour s'encourager. Et c'est comme ça que le Seigneur vit qu'on vive la prophétie. Parce que nous sommes invités à vivre en accord avec le temps de Dieu dans lequel nous sommes. Je ne sais pas si vous savez à quelle époque, grande époque de l'histoire du salut nous nous trouvons. Nous sommes dans l'époque qui est située entre la Pentecôte et le retour de Jésus. Et cette époque, c'est celle où Dieu a déversé son esprit sur son Église pour faire d'elle tout entière un peuple prophétique et plus seulement simplement quelques prophètes qui se lèvent comme ça, comme dans l'Ancien Testament. C'est l'Église entière qui a cette dimension prophétique. Et ce qui nous montre qu'on est appelé à vivre cela ensemble, en famille, en nous encourageant les uns les autres. Parfois en corrigeant aussi un peu les uns les autres quand il y a besoin, hein. Il faut être prêt aussi à cela, en prophétisant aussi ensemble, en utilisant les dons des uns et des autres, en discernant ensemble. Et ça, c'est merveilleux. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole qui nous rappelle cette vérité que nous sommes ton peuple en Jésus-Christ et que tu nous as fait cette grâce de déverser ton Saint-Esprit sur ton peuple. Mais Seigneur, donne-nous de ne pas prendre cela à la légère, mais de réaliser le cadeau qui nous est fait, Seigneur, et le cadeau que tu veux nous faire si on n'a pas encore réalisé. Ce Saint-Esprit, ta présence, toi, le Dieu vivant qui vit en nous et qui veut aussi inspirer nos paroles, inspirer notre témoignage, inspirer nos prières. Alors Seigneur, je te prie que tu nous permettes dans les temps qui viennent, dans les temps à venir, à être à l'écoute davantage de ce que tu veux nous dire et de ce que tu veux dire aux autres, à ceux qui nous entourent, à ton Église. Donne-nous d'être à l'écoute de ton esprit. Viens faire de nous vraiment une communauté prophétique qui sait aussi accompagner, encourager, discerner les dons des uns et des autres. Et Seigneur, que tu viennes ranimer en nous, Seigneur, ce feu de ton Saint-Esprit qui est un feu dévorant, qui inspire aussi nos paroles. Rends-nous conscients, Seigneur, de ce cadeau qui est là et qui n'est pas juste pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Nous prions au nom de Jésus. Amen.